Qu'est-ce qui se passe ?
Pas de panique, c'est l'heure de l'actu culturel.
Musique, théâtre, cinéma, sortie.
Votre agenda culturel avec Studio Zef.
Bonjour et bienvenue dans Qu'est-ce qui se passe, votre agenda culturel de la semaine. Au programme du cinéma féroce, de la musique, des mélanges du théâtre et des acrobaties. Et avec moi aujourd'hui, celle qui décortique les actus du département avant de les réassembler et de créer ce que vous êtes en train d'entendre. Bonjour Lucie.
Salut.
De coup, tu nous parleras de cinéma, oui, non ?
Ouais, de cinéma ça. Pour les enfants.
Très bien. Et avec nous Charles.
Bonjour. Bonjour.
Une voix qu'on ne connaît pas.
Non.
Qui nous parlera de Jeux en Blois.
Voilà. Mais faut pas dire que je travaille à la radio, parce qu'après non. Ça fait mélange de genres et...
Tu travailles pas à la radio.
Non, je travaille pas à la radio.
Très bien. Tu nous parleras quand même de jeux et de...
Exactement.
D'une nuit qui arrive bientôt.
C'est ça.
Et on va commencer par une soirée au Château d'Eau.
Et oui, le Château d'Eau organise en partenariat avec les îlots électroniques une soirée, voire une nuit, puisqu'elle se termine à 5h du matin, électro. Donc ça commence dès 18h30 au Lobis avec la projection du documentaire French Waves de Julian Stark. Il raconte l'histoire de l'électro française à travers les yeux de la jeune génération. Il part à la recherche des racines américaines techno, nous fait revivre l'époque des raves illégales et retrace le destin peu commun de la French Touch, ce courant musical qui a joué un rôle déterminant pour la reconnaissance des musiques électro dans le monde. La projection est suivie d'une masterclass avec Chloé et le DJ AZF. Elles partageront leur expérience à travers une performance entre impro collective et composition d'un titre en live, dévoilant quelques secrets de création. Vous pourrez aussi rencontrer le réalisateur du documentaire. Puis de 23h à 5h, on quitte les lobbies et on se rend au Château d'Eau, où trois artistes vont se succéder et enchaîner les sets. On retrouvera DJ AZF, Chloé, mais aussi Arnaud Enjoy, et en dernier, Tac Tac, qui terminera la soirée par un set chill out. Bref, une soirée comme on n'en voit pas assez en Blois, et c'est à Blois, et c'est ce samedi. On continue avec le ciné, mais à la frontière du concert.
Avec la pyramide de Romorantin ce vendredi 29 mars à 20h30, qui propose une soirée avec la projection du film Les Lumières de la Ville de Charlie Chaplin, sans doute l'un de ses meilleurs films. Un long métrage mélodramatique entre pathos, burlesque et comédie. Il s'agit d'un film muet, mais qui, pour cette soirée, sera doublé en musique par l'Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire, reconnu comme l'une des meilleures formations orchestrales françaises. Une soirée qui promet d'être de qualité ce vendredi à 20h30 à la pyramide de Romorantin. Et on continue en musique.
Avec un concert organisé par le Club de la Chaînée ce vendredi à partir de 21h. C'est le Quatuor Lavache qui viendra se produire sur scène. Un groupe parisien qui tire ses inspirations des quatre coins du monde qu'ils ont sillonnés, mais aussi de leurs origines à tous, arméniennes, congolaises, mexicaines et polonaises. D'ailleurs, Lavache, c'est le nom du pain traditionnel arménien qui se partage morceau par morceau. Et il semblerait que le partage définisse bien ce groupe qui fait de la musique entre musette et musique traditionnelle. Ce qui est sûr, c'est que l'énergie qui se dégage est communicative. Allez voir par vous-même ce vendredi au Club de la Chaînée à 21h. De la musique, on passe au théâtre.
Avec la Compagnie du Divan qui jouera une œuvre de Carole Fréchette au Lobis ce dimanche à 17h. Il s'agit de la pièce « La peau d'Elisa ». Une femme est sur scène, seule, et elle nous raconte des histoires d'amour, de rencontres avec délicatesse. Des histoires vraies qu'elle nous livre dans le détail et avec minutie jusqu'au ressenti. Physique, les mains moites, le cœur qui bat, le souffle court, tout y est. Elle nous parle des personnes qui l'ont marquée, mais qui est cette femme ? Pourquoi nous raconte-t-elle cela ? Elle parle vite, comme si elle était un peu en danger, elle est fébrile, comme si sa vie en dépendait. Puis, peu à peu, à travers ses récits, elle nous livre un secret insensé qu'un jeune homme lui a confié.
On peut dire un petit coucou à Laurence Boiseau, qui est une amie et qui joue sur scène.
Effectivement, puisque Laurence Boiseau, la comédienne, veut préserver cette intimité, et c'est pour cela qu'elle va à la rencontre du public, chez lui, dans son café, sa bibliothèque ou bien son cinéma. C'est dimanche au Lobis à 17h. Et on termine avec l'art du cirque.
Et c'est l'Hectare, scène conventionnée de Vendôme, qui propose ce mardi 26 mars une représentation du gros abordage par le collectif d'acrobates La Mondiale Générale. Pour résumer, 5 acrobates forment une chaîne humaine fragile et précieuse, mais de plus en plus périlleuse. Ensemble, ils évoluent au ralenti, en apesanteur, sur des planches en bois de différentes tailles. Les obstacles sont volontairement nombreux et le risque est calculé pour être déraisonnable. Entre jeu d'équilibre, situation aussi absurde que technique, décalé que physique, un cirque fantaisiste et un spectacle durant lequel on retient son souffle. Nous, on a vu que le teaser qui a déjà réussi à nous transporter, donc ça promet. À retrouver au Minotaur dès demain à 20h30.
Et on va continuer à parler un peu d'instabilité, mais aussi on va continuer sur du cinéma parce qu'on aime bien ça. Et donc, tu vas nous parler de Wardy, c'est ça ?
C'est ça, parce que je voulais vous parler de cinéma encore une fois, on en parle souvent ici. Mais là, cette fois-ci, du cinéma pour enfants qui aborde un sujet qui n'est pas souvent abordé avec eux généralement. C'est le film d'animation Wardy réalisé par Mats Grorud et sorti le 27 février au cinéma. Donc l'histoire se passe au Liban, donc plus précisément à Beyrouth de nos jours, et il raconte l'histoire de Wardy, une jeune Palestinienne de 11 ans qui vit avec sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Elle y vit notamment avec son arrière-grand-père adoré, Sidi, qui s'y est installé après avoir été chassé de son village en 1948. Donc un jour, Sidi confie les clés de son ancienne maison en Galilée et Wardy craint alors qu'il ait perdu l'espoir d'y retourner un jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ? Alors c'est un film qui permet d'aborder déjà l'histoire complexe du conflit israélo-palestinien avec les enfants. Il retrace l'historique des réfugiés palestiniens depuis l'exode de 1948. L'intérêt du film est de ne jamais montrer de la violence au premier degré. Celle-ci est simplement décrite telle qu'un enfant peut la comprendre et surtout l'assimiler. Le thème du film est vraiment celui de la mémoire de l'histoire palestinienne et des événements douloureux qui la traversent. Il parle entre autres de la Nakba, qui est un mot arabe qui signifie « catastrophe » et qui désigne l'exode forcé d'environ 700 000 Palestiniens entre 1947 et 1948, suite à l'explosion de la violence. Donc un exode au Liban qui devait être éphémère, mais ils n'ont jamais pu rentrer dans leur pays en fait, et ça fait déjà 70 ans et les camps de réfugiés ne cessent de grossir. Donc pour faire ce film, Mats Grorud s'est notamment servi des récits de sa mère qui a travaillé comme infirmière au Liban pendant la guerre dans les années 80. Lui-même a été vivre au Liban pendant un an en 2001. Il travaillait dans une école maternelle financée par une ONG dans un camp de réfugiés à Beyrouth. Et à travers ses rencontres et les récits qu'il a pu entendre et récolter, peu à peu l'idée du film est née, avec une volonté de créer un lien entre la nouvelle et l'ancienne génération. Donc c'est vraiment un film sur le temps qui passe, qui lit passé, présent et futur. Et du haut de ses 11 ans, Wardy questionne les trois générations de réfugiés palestiniens qui l'ont précédé et vivent encore à ses côtés. Il montre aussi un quotidien dans les camps difficiles avec des enfants qui naissent privés de droits sous le statut de réfugiés. La citoyenneté libanaise ne leur étant pas accordée, ils ne pourront rien posséder et sont exclus du marché du travail. Alors d'un point de vue technique, le choix du cinéaste est ingénieux. Le film découpe en deux temps le présent, le temps de Wardy, et le passé avec les souvenirs relatés par les membres de sa famille. Le présent est mis en scène avec des marionnettes, alors que le passé est relaté à l'aide de dessins et d'animations en deux dimensions. Cela permet aux spectateurs de se projeter à la fois dans l'histoire, le récit du film, mais aussi dans l'histoire avec un grand H, celle des réfugiés palestiniens. Donc c'est un film qu'on ne peut que vous recommander d'aller voir avec vos enfants. Donc cette semaine, il n'a pas été reprogrammé au Lobis, mais sa sortie en DVD ne devrait pas tarder. Donc j'espère que vous pourrez en profiter et le voir d'ici peu.
Bah c'est un film qui a l'air très intéressant et aussi instructif que beau.
Ouais, je pense que ça vaut le coup. J'ai appris plein de choses en lisant beaucoup de choses sur ce film que je ne savais pas.
Et on va faire une petite pause musicale avant de nous retrouver avec Jean Blois. Donc la pause musicale sera avec Minor Swing de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli du Jazz Manouche. Thank you.
Qu'est-ce qui se passe ?
Pas de panique, c'est l'heure de l'actu culturel.
Musique, théâtre, cinéma, sortie.
Votre agenda culturel avec Studio Zef.
Et on est le 25 mars et on se retrouve toujours donc dans l'agenda culturel et on est cette semaine avec Jeux en Blois. Bonjour Charles.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu l'association Jeux en Blois ?
Alors Jeux en Blois, comme son nom l'indique, c'est une association ludique qui est basée à Blois. Qu'on a créé en 2015. L'idée de départ, en fait, c'était surtout de faire en sorte qu'il y ait un peu d'événements culturels, d'événements, un peu plus d'événements ludiques à Blois. L'idée, enfin, moi, je suis un grand passionné de jeux de société, particulièrement de jeux de société, hein, mais jeux en Blois, il n'y a pas de X à jeux, parce que justement, on veut valoriser tous les jeux, pas uniquement le jeu de société. Mais. En l'occurrence, pour nous, c'était là où c'était le plus facile d'organiser des choses. Donc on organise actuellement des événements réguliers avec nos partenaires que sont la LCV, puisqu'ils nous reçoivent dans leurs locaux, et on organise deux à trois soirées jeux par mois, qui sont des soirées qui sont libres et gratuites pour tous. Alors évidemment, si les gens veulent adhérer à l'association, c'est encore mieux, puisque grâce aux adhésions, en fait, ça nous permet d'acheter des jeux, et d'avoir plus de propositions à leur faire. Voilà, principalement les activités de l'association. À côté de ça, on travaille un petit peu aussi avec la ville de Blois, on a travaillé un petit peu avec la maison de Bégon et d'autres associations comme ça, qui font appel à nous pour animer des événements. Alors comme par exemple Mixter il y a quelques années, on a été aussi l'année dernière sur la fête des métairies du Pont Saint-Michel, où on a fait aussi animer un petit espace de jeux de société alors pour toute la famille. Et voilà, donc nous ça nous permet de gagner un petit peu de fonds qu'on peut valoriser derrière encore une fois auprès de nos adhérents en achetant des jeux et en faisant en sorte que on ait toujours une proposition nouvelle. Voilà.
Et du coup, pour les soirées que vous faites, il y a des enfants qui viennent un petit peu au jeu ou c'est vraiment entre adultes pour les soirées ?
Alors les soirées jeux, c'est plus pour les adultes, déjà parce que c'est en semaine et que c'est en soirée.
Ouais.
Donc voilà, tout de suite, ça complique un petit peu la tâche pour des parents qui viendraient avec des enfants. Mais ça nous arrive de faire des soirées sur des jours fériés ou pendant des vacances scolaires. Et là, en ce moment-là, on a quelques familles qui viennent. Mais nous, on propose surtout des jeux pour les plus grands, en fait. Donc, avant 8 ans, c'est compliqué de s'installer autour d'une table avec des enfants et que tout le monde y trouve son compte, surtout.
Ouais.
Puisque souvent, quand on joue avec des petits, c'est pour faire plaisir aux enfants, mais nous, on n'y prend pas forcément de plaisir. Parce que jouer au memory, c'est bien, mais bon, on fait vite le tour en tant qu'adulte.
Ouais.
Alors que les enfants, eux, ils prennent leur pied, hein, y a pas de souci. Donc, nous, on va essayer de proposer des jeux pour toute la famille, mais plutôt à partir de 6, 7, 8 ans, quoi.
Okay.
Oui, parce qu'on voit souvent, enfin, quand on voit jeu de société, on pense souvent à Monopoly, Trivial Pursuit, Millburn, mais c'est un peu plus diversifié que ça, le jeu, en vrai.
Pour citer un chiffre, en fait, à l'heure actuelle, en France, par an, on doit avoir entre 600 et 800 sorties de jeux de société modernes, ce que moi j'appellerais des jeux d'auteur, c'est-à-dire Monopoly, quand vous regardez la boîte, vous savez pas qui est-ce qui a fabriqué ce jeu-là. Vous savez juste quelle entreprise l'a fabriqué. Là, la différence, c'est qu'on a des jeux qu'on appelle des jeux d'auteur, puisque les gens qui ont créé, qui ont imaginé le jeu, le nom est crédité sur la boîte. Donc on sait qui aller voir, qui rencontrer, qui a imaginé ça. En lien avec les éditeurs, évidemment, qui ont un rôle important. Et en fait, depuis maintenant les 15-20 ans, on peut même dire 15-20 ans, en France, il y a un espèce de boom comme ça, alors qu'il est encore souterrain, parce que ça concerne quelques dizaines, centaines de milliers de personnes. C'est pas si énorme que ça, mais comparé à ce qui existait dans les années 90, par rapport à ça, c'est quand même énorme. Il y a un boom, justement, du jeu de société moderne, c'est-à-dire du jeu de société où, en fait, c'est pas juste le dé qui décide qui gagne à la fin. C'est aussi, parce que moi, j'ai grandi avec les jeux que tu as cités, hein, et même, je pense que si je sortais à Millburn aujourd'hui, je pourrais y prendre un peu de plaisir. Malgré tout, c'est quand même des jeux où c'est le hasard qui décide. Là, la différence, c'est qu'on a des jeux où on a d'autres mécaniques, on a d'autres façons de savoir qui gagne ou qui gagne. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a depuis 10 ans aussi une grosse sortie de jeux qui sont des jeux coopératifs. où ça c'est vraiment une révolution puisqu'on est plus à gagner les uns contre les autres, on gagne ensemble ou on perd tous ensemble. Donc voilà, et nous c'est ce qu'on essaie de faire, Jeux en Blois, c'est-à-dire qu'on essaie de proposer ces jeux-là, des nouveautés, des choses qui, des mécanismes qui sont différents, où on va pouvoir initier tout le monde, parce qu'on va commencer avec des jeux qui sont vraiment accessibles à tout le monde, et puis on va avoir aussi des jeux pour des gens qu'on considère comme plus experts, c'est-à-dire qui ont une culture du jeu, une culture ludique, qui jouent beaucoup, et qui du coup vont chercher des choses plus complexes, où il y a plus de réflexion, où il y a de moins en moins de hasard, pour arriver à des jeux où on est proche de uniquement de l'optimisation, de la réflexion, c'est uniquement celui qui a le mieux réfléchi pendant la partie, qui a le mieux pensé sa partie, qui va gagner.
Donc il y a vraiment des jeux pour tous les goûts maintenant. Il y a, avec les différents types de jeux, il y en a pour tout le monde.
Il y en a pour tout le monde. Je dirais que quand il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit bah, j'aime pas jouer, je lui dis non, c'est que vous n'avez pas encore trouvé le jeu qui vous plaît. Puisque il y a des niveaux de difficulté, des niveaux d'engagement intellectuel. On peut s'engager plus ou moins. Et aller plus ou moins dans la réflexion, on peut rester sur un niveau très léger, mais même quand on joue à un jeu très léger, on va quand même réfléchir, ça, il ne faut pas le nier, parce qu'on fait un choix, et forcément faire un choix, ça veut dire peser le pour et le contre, et se dire, bah, cette solution me paraît mieux que l'autre, même si c'est le hasard qui décide. Et puis après, on va aussi avoir des mécanismes différents, c'est-à-dire que, est-ce qu'on va plutôt faire jouer son adresse, est-ce qu'on va plutôt faire jouer une prise de risque ? J'y vais pas. Est-ce qu'on va plutôt se dire, bah tiens, non, il faut que je fasse ça pour avoir ça, pour avoir ça. Enfin voilà, il y a vraiment tous les mécanismes qui sont possibles. Et ce que je disais sur les jeux coopératifs, c'est aussi ça. C'est-à-dire que on va avoir des mécanismes coopératifs où il faut retenir son souffle. Et c'est le premier qui lâche, qui fait du coup arrête la manche pour tout le monde. Ça va être, bah tiens, je te donne des éléments qui te permettent de jouer. Ça peut être aussi, il y a un vote à faire. Enfin voilà, donc c'est vraiment très très riche en fait.
On peut aussi avoir des jeux où tout le monde joue contre le jeu.
Ben, c'est le principe du jeu coopératif principalement. Où en fait, c'est dans la règle du jeu, il y a des choses à faire dans la boîte qui font avancer ou reculer le groupe. Voilà. Et pareil, encore une fois, sur ces mécanismes-là, par exemple, Mysterium, c'est un exemple où en fait, on a une personne qui joue un espèce de fantôme et qui va essayer de faire deviner au groupe un événement, un truc, qui est sur des cartes à jouer, où il y a des dessins. Et en fait, c'est un jeu d'association d'idées à partir des cartes, où le fantôme va donner des indices et où les joueurs vont essayer de retrouver ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut trouver. Voilà, donc c'est un exemple très riche. Hein.
Et t'en parlais tout à l'heure, mais t'as dit que c'était des jeux qui sont pour toute la famille, mais le jeu, est-ce que ça peut toujours rassembler, et est-ce que ça peut autant rassembler et autant faire plaisir à des enfants comme à des parents, et des fois sur le même jeu ?
Bah, moi qui suis joueur, je t'avouerai que je prends... alors je prends pas le même plaisir, ou c'est un peu différent, mais on peut très bien s'amuser uniquement entre adultes en fait. Et c'est principalement nous ce qu'on essaie de développer, c'est vraiment pour des soirées ou des parties qui se font entre grandes personnes. Je mets des guillemets parce que quand on joue à des jeux de société toute sa vie, est-ce qu'on est vraiment une grande personne ? Je sais pas. mais en même temps, on va aussi avoir des jeux qui vont être des challenges aussi pour les adultes quand ils jouent face à des enfants. Notamment, les enfants, ils ont des compétences, des capacités intellectuelles qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont souvent, sur certains mécanismes, notamment sur la mémorisation. Ils vont te déboîter à 100% à chaque fois, hein, ils sont meilleurs que toi. Et du coup, le challenge, il est aussi de montrer que finalement, le gamin, il sait faire, mais toi, tu n'es pas si bête que ça quand même aussi. Et voilà, l'intérêt du hasard, j'en disais, c'est vrai que quand on est adulte, on n'aime pas trop ça, parce que quand on joue 3 heures et que tout se règle par un lancer de dés... c'est un peu frustrant. Mais par contre, l'avantage du hasard avec des enfants, c'est que ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà. Donc ça, c'est cool, quoi. C'est-à-dire que je lance les dés, le gamin, il lance les dés, il peut me battre. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est intéressant.
Et une dernière question, c'est... maintenant, on voit du jeu de société, on a tendance des fois à peut-être en voir un peu moins, et on voit beaucoup de jeux vidéo. Est-ce que le jeu vidéo est un concurrent du jeu de société ? Est-ce que c'est différent ? Ou est-ce qu'il y a quand même des points communs et que l'un peut amener vers l'autre et inversement ?
Moi je n'oppose pas les deux. Je pense que tout est une question de circonstances, de quand est-ce que c'est le mieux. Il y a récemment quelques éditeurs qui se sont posé la question et qui intègrent notamment des applications sur smartphone qui vont ramener une mécanique supplémentaire pour faire un timer, pour faire un... Enfin voilà, il y a des choses qui sont possibles. Les jeux en ligne, notamment les jeux massivement joueurs, massivement jouables, c'est intéressant aussi. Après, c'est quand même pas du tout la même chose. Il y a quand même très peu de risques pour une personne qui aime les jeux de société de devenir addict et d'y passer toutes ses journées, parce que forcément, il faut être plusieurs. Même s'il y a quelques jeux qui se développent, des éditeurs qui sont malins et qui développent des mécanismes où on peut jouer tout seul à un jeu de société, ce que je trouve quand même c'est intéressant, mais c'est quand même limité à mon sens. Voilà, après, moi je n'oppose pas les deux, en fait, c'est une pratique ludique. L'idée c'est que ça reste quelque chose qui c'est pas la vraie vie, quoi, c'est la fiction, et il y a une interaction entre les joueurs, et puis on décide de jouer ou de ne pas jouer, en fait. C'est ça le principe. Donc dans tous les cas, c'est du jeu.
D'accord. Enfin, je trouve la question intéressante parce que par exemple, il y a des éditeurs comme Ankama qui font des jeux de société comme des jeux vidéo, et qui font les deux. Et mm-hmm. on voit aussi souvent sur les studios de développement de jeux vidéo, ils ont beaucoup de jeux de société et ils s'en inspirent, entre autres, en partie des mécaniques.
Ouais, et puis c'est aussi l'intérêt de développer des licences et de multiplier les supports pour avoir une gamme complète et puis aussi gagner plus d'argent, quoi. Les gens qui sont fans du jeu vidéo, ils voient le jeu de société, ils vont se dire « Ah ouais, c'est bien, c'est la même chose. » De la même façon que des éditeurs de films, ils vont sortir des jeux de société aussi, ou des jeux vidéo. Là, on est plus sur une démarche commerciale. Alors, pour certains jeux, hein, je ne parle pas pour tous, mais on est pour certaines choses, on est sur une démarche commerciale. Ah bah tiens, on a la série Walking Dead, on va faire le jeu de société, on va faire le jeu vidéo. Voilà. Parce qu'il y a malgré tout, il y a un public, il y a un marché, et du coup il faut l'occuper en sortant des choses. Après, moi ce qui est important, c'est pas tellement est-ce que le jeu est-ce qu'il correspond au jeu vidéo, etc. C'est ce que c'est un bon jeu déjà, c'est le plus important, quoi. Et surtout si je suis pas fan de la série ou du jeu vidéo, est-ce que je vais quand même prendre du plaisir à jouer au jeu de société? Je trouve que c'est ça le plus important.
Et donc en parlant d'importance, vous organisez la nuit du jeu, donc ça sera le 30 mars de 14h et jusqu'au 31 mars à 7h, et ça sera à la Fabrique, 7 rue d'Auvergne.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette nuit du jeu? C'est la troisième édition.
Alors c'est la troisième édition et c'est la deuxième fois qu'on fait ça à la Fabrique, qui est aussi un partenaire qui nous met à disposition les locaux, et on les en remercie d'ailleurs, puisque sans eux ça aurait été bien plus compliqué. C'est vraiment la grosse difficulté pour ce genre d'événement, c'est d'avoir un lieu qui accepte d'être ouvert toute la nuit. Puisque voilà, on ouvre les portes à 14h le samedi et on les referme à 7h du matin. Et en continu, en fait, on va pouvoir accueillir les gens. Donc l'équipe de l'asso se chargera d'accueillir les gens, de conseiller, d'expliquer les jeux. Puisque souvent, les gens, on va leur proposer 200 jeux sur la nuit, 35 nouveautés depuis janvier. Donc forcément il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui connaissent pas, donc il faut aussi que les gens s'y retrouvent, donc on les accompagne, on leur explique la règle du jeu, même on va un peu plus loin s'il y a besoin, on revient sur des points de règle, ou on leur permet en fait de comprendre et de s'approprier le jeu au le plus possible, en sachant que du coup ce qui est important pour nous, c'est sur l'après-midi de pouvoir accueillir tout le monde. On sait qu'on va avoir certainement des familles, donc là on va essayer d'ouvrir un petit peu la proposition. On a quelques boîtes pour les enfants, pour les plus jeunes, donc à partir de 4 à 5 ans, donc qui permettent de jouer en famille. Et puis on sait que l'heure avançant, et notamment dans la nuit, on va surtout avoir des adultes. Et là on va pouvoir proposer d'autres jeux plus lourds, plus longs, des jeux qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures, puisqu'on a tout l'espace de la Fabrique pour nous. Donc on va pouvoir aussi s'isoler si on a besoin de réfléchir, avoir des pièces peut-être plus bruyantes. Voilà, on a prévu un petit programme d'activités. Je peux vous sauter un petit peu les 2-3 petites choses qu'on a prévues aussi en plus. En plus des 200 jeux à disposition, on va avoir une initiation au poker, la présence de deux éditeurs, Yoko Baitsume et Benjamin Lavie avec son jeu Singing in the Game. Donc c'est l'éditeur, c'est Femumuse. On aura un concours autour d'un jeu de société qui s'appelle Celestia, donc dans l'après-midi, 14h-18h, et puis on aura d'autres surprises comme ça au fur et à mesure pour les gens qui viennent. Ce qui est cool, c'est qu'on a prévu la buvette. Alors tout est à 1€, et à ce moment-là, soit on décide de payer 1€, soit on lance un dé 20 face, Et c'est 10 centimes le point, donc on peut se retrouver à payer plus ou payer moins. Ça dépend du lancer. Voilà, on met même du jeu, on essaye de mettre du jeu au bar aussi, histoire de faire le lien tout le temps.
Et un dernier conseil qui nous inviterait à venir quand même sur cette soirée.
Ouais.
C'est long. Un dernier conseil à donner ?
Eh ben, on peut venir une heure, repartir, revenir une heure, rentrer, manger à la maison, se mater une série, revenir à 10h30. Voilà. L'année dernière, moi, j'ai vu des gens que j'ai réussi à embarquer toute la nuit, en fait. Ils n'avaient pas prévu d'être là toute la nuit, mais c'est juste que du coup, pris dans le truc, puis toujours des nouveaux, toujours des nouvelles choses à deviner, à découvrir, ils se sont laissés embarquer. Faut pas se dire, ah, c'est long. On peut venir, je dis, on peut venir une demi-heure, une heure, venir avec les enfants, les ados. Enfin voilà, c'est vraiment libre et gratuit, donc il y a pas de.
Et pour jouer avec des jeux de toute durée, de quelques minutes à quelques heures.
Exactement. Et puis surtout, découvrir des jeux récents. Moi, je pense que je vais amener quelques vieilleries de mes placards, parce que c'est l'occasion aussi. Et voilà. Et puis se laisser emporter.
Bah très bien, on mettra donc le lien vers Jeux en Blois et la nuit du jeu sur l'article de cette semaine de Qu'est-ce qui se passe sur le site studiozef.fr. Et on va se laisser, parce que c'est déjà la fin de cette émission.
Et oui, ça passe vite. Hein.
Bah très vite, surtout quand on parle et que c'est intéressant. On va se laisser avec In Your Head de Niluferiania.
Alors je vais le refaire. In Your Head, Niluferiania.
Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi ça très vite ?
Très très vite, c'est une artiste anglaise qui mélange du rock et de la pop un peu R&B et du coup dans sa façon de chanter, en fait c'est une petite gonzesse toute mignonne etc. Et puis elle monte sur scène avec sa guitare. Je trouve ça du coup le mélange des genres, je trouve ça assez cool.
Eh bah très bien, et bien merci beaucoup pour cette présentation de Jean Blois et de la nuit du jeu. Donc le 30 mars à 14h jusqu'au 31 mars à 7h à la Fabrique à Blois. Et nous, on vous dit rendez-vous à vendredi pour un nouveau Qu'est-ce qui se passe pour l'agenda du week-end et In Extremis.
Et on vous souhaite une bonne semaine.
Très bien.
Oh darling, and I've got some marks where I'm telling the truth, but